Merci Florence. Donc je commence par présenter les excuses du président de l'université de Compostelle, qui est actuellement dans l'Oise. Nous sommes une université plurisite et il a des contraintes multiples aujourd'hui, comme un certain nombre d'entre nous, donc il ne peut être présent, ce qu'il le regrette bien, compte tenu des éléments que je vais vous donner, de la concordance entre sa politique de recherche impulsée et votre journée. Donc, je suis Philippe Rivet, je suis historien moi-même, je suis vice-président en recherche chargé des sciences humaines et sociales, et j'ai grand plaisir à ouvrir cette journée. Alors évidemment, ouvrir une journée, c'est d'abord des remerciements, et en particulier des remerciements à Florence Levé et plus largement à l'équipe du MIS et au personnel concerné d'avoir pris l'initiative d'organiser à Amiens ces deux jours, donc le 22 et 23 janvier, cette journée d'accélération dans le cadre du PEPR ICAR autour des industries culturelles, les industries culturelles étant importantes dans le développement économique, singulièrement de la région Hauts-de-France qui abrite un certain nombre de ces industries. Plus particulièrement, donc, cela va tourner autour de la musique, ce qui serait étonné compte tenu des compétences de Florence Levé à cette question, de la récurrence aussi des journées qu'elle organise et que nous subventionnons régulièrement, qui doivent s'appeler En avant la musique, et nous avons encore un programme pour 2026. Et cette journée, cette thématique, sciences ouvertes, données ouvertes et musique, nous semble à l'équipe de direction particulièrement importante et particulièrement en phase avec un certain nombre de défis que nous avons pour l'actuel mandat de l'équipe de direction. L'un des objectifs que nous avons mis en avant, quand aussi Denis Postel était vice-président recherche et maintenant qu'il est président, c'est ce qu'on appelle le décloisonnement entre les sciences humaines et sociales et le secteur d'ISTS, sciences, technologies et santé. Et le travail qui est mené aujourd'hui rentre en plein dans ce décloisonnement avec comme intervenant, si j'ai bien vu le programme, un certain nombre de musicologues. On a Ludwig van Drix venait, spécialiste de la musique de la Renaissance, donc dans des sections CMU qui relèvent des sciences humaines et sociales, et puis bien sûr tous les participants du MIS, donc qui relèvent de la science du numérique. Donc vos journées, de même que les journées que j'ai déjà citées, régulièrement organisées en liaison avec aussi le LAMFA sur le laboratoire de mathématiques UMR-CNRS sur les questions de musique, rentre en plein dans cette politique de décloisonnement. Et puis on a un autre défi à l'université, d'autres discussions actuellement, c'est sur la question de la donnée, de l'open data, de tout ce qui est science ouverte. Ce n'est pas la peine de se cacher qu'il y a eu un certain retard dans la mise en œuvre de cette politique de science ouverte, que d'abord on a travaillé sur les publications ouvertes, mais qu'il y a maintenant un véritable défi sur lequel nous avons encore organisé une réunion il y a quelques jours pour que les données de recherche soient mises à disposition. Et je pense que ce sur quoi vous allez échanger va être un des éléments de réponse, à savoir pourquoi et comment mettre en œuvre cette politique d'open data, de mettre à disposition les données avec une certaine sensibilité à la chose. La politique d'open data risque d'être percutée également par une volonté de sécurisation aussi d'un certain nombre de données dans le contexte géopolitique international que nous connaissons tous et de la méfiance de plus en plus grande autour des questions de captation malveillante de données. Donc là, c'est pour notre université, comme pour les autres universités, un des défis dans les années à venir. Et cette journée, sur un type de données particulier, peut-être pas le plus sensible, mais cette journée est un des éléments de réflexion sur cette question. Et puis, pour terminer, je voudrais me féliciter de cette collaboration avec le CNRS, de cette réponse positive qui a été donnée à la proposition de Florence d'organiser à Amiens ces journées d'accélération. Les PEPR sont un des éléments qui est mis en place ces dernières années pour développer la recherche en France dans tous les secteurs. Et j'espère aussi que des projets issus du PJV pourront être financés dans le cadre de ces PEPR, au-delà donc de ces journées d'accélération. Je ne vais pas pouvoir rester parce que nous avons d'autres réunions aujourd'hui planifiées, mais donc je vous souhaite deux journées de travaux fructueux et je n'en doute pas compte tenu de la qualité du programme que j'ai pu regarder. Bonne journée à vous et merci encore Florence.
Donc je passe la parole à Baptiste d'abord, voilà, et à Augustin ensuite pour le PEPRK.
Alors, je n'ai pas l'éloquence du vice-président. Je vais rapidement vous présenter ICAR, et puis Augustin, entre-temps, va aussi présenter les secteurs musique et données métadonnées. Et puis ensuite, la parole sera à Mathieu et à Florence. Alors, je vais... J'espère que ça ira. Alors, je passe sur... ICAR est lié aux stratégies d'accélération des industries culturelles et créatives, qui est donc associée au PIA4, le plan investissement avenir du gouvernement. Donc le CNRS a été chargé par le secrétariat à l'investissement de travailler à une stratégie de recherche sur cet objectif-là. Les PEPR, ce qu'on appelait à l'époque PEPR, en tout cas ces gros projets, il y en a de diverses natures. Il y en a sur le quantique, il y en a sur les sols, il y en a sur, voilà, plutôt technocentrés, décarboner l'industrie, etc., etc. Nous, on est le seul en sciences humaines et sociales et le seul sur un objet culturel, voilà, donc sur les industries culturelles et créatives. Et nous sommes le volet recherche, et plutôt recherche-action dans ce contexte-là.
On va y arriver.
Alors, est-ce qu'on est dans le partage, est-ce qu'on est dans le... Est-on encore dans le Zoom ou pas ?
Comment je sors de Zoom ?
Oui. Mais bon. Non, toujours pas. Mais bon, ouais. Alors, donc, le porteur, c'est le CNRS. La cible pour nous, c'est tout l'enseignement supérieur et la recherche, et également les chercheurs aussi. Donc, ministère de la Culture, ministère d'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Et les professionnels des industries culturelles et créatives. Alors nous, quand on parle d'industrie culturelle et créative, ça va très bien de la petite association à Universal, on va dire. Voilà, donc on ne met pas de barrière sur qui est industriel ou qui ne l'est pas. L'objectif, c'est quand même, de notre côté, plutôt de s'adresser aux petites et moyennes structures. Enfin, les très grandes structures, je pense, n'ont pas besoin de la recherche pour s'accélérer. Mais voilà, c'est plutôt de cette partie-là pour nous. C'est piloté par Sol Bexer pour l'Institut national de sciences humaines et sociales et par David Curjoli pour l'INS2I, donc l'Institut côté sciences informatiques du CNRS. Un montant de 25 millions, c'est pas mal, et une durée de 6 ans. Voilà. Et le programme avait donc a débuté à l'automne 2024 après moult péripéties. L'idée, voilà, pour nous, c'est de créer les conditions de rencontre entre professionnels et chercheurs. Vous vous doutez bien, je pense que vous l'expérimentez, hein, c'est un point qui n'est pas toujours facile à réaliser. On a 6 ans pour le faire et pour y arriver. Et donc là-dedans, on a toute une stratégie pour y arriver. Je te prie, si tu peux passer. Hop. Ah, c'est bon. Donc, ICAR est structuré de 3 façons. Il y a l'ICAR Lab, donc là, c'est nous notamment, là, ce qui est divisé en secteurs. Donc, il y a 11 secteurs en tout, dont le secteur musique, mais il y a aussi le secteur édition, spectacle vivant, art de vivre, etc. etc. Ensuite, il y a 6 projets thématiques. Alors, je ne vais pas tous vous les faire, mais il y en a un sur les cultures alternatives. Il y en a un sur les questions de démocratie culturelle. On a 2 autres qui sont plutôt côté intelligence artificielle, métaverse. Enfin, c'était à l'époque, hein, quand ça a été fait. Maintenant, c'est un peu moins la mode. Mais plutôt aspect technologique et aspect culturel. Voilà. Et ça, voilà, ce sont des projets qui sont indépendants d'une certaine manière, mais qui ont leur propre budget et voilà, qui se coordonnent avec le reste d'ICAR. Et ensuite, on a l'appel à manifestation d'intérêt. Qui a été lancé, et là c'est pour des gros projets structurants qui seront associés à ICAR, et ce sera sur des thématiques que nous n'avons pas envisagées à l'origine. Et, donc il y a une enveloppe spécifiquement pour ça. Là, ce sera, c'est encore à développer, l'appel est ouvert et ça va bientôt être expertisé. Donc l'ICAR Lab, comme vous disiez, voilà, c'est tous ces secteurs-là. Là, pour nous, ce sera le secteur musique et le secteur données, métadonnées. Voilà. Et je vais passer la parole à Augustin qui va justement vous présenter le secteur musique et le secteur données, métadonnées.
Merci Baptiste. Le secteur musique, en l'occurrence, ce n'est pas la première journée qui est organisée dans le cadre du PEPR ICAR. Parce que c'est un secteur qui a notamment été structuré autour d'une première journée qui s'est déroulée au CMBV, donc au Centre de Musique Baroque de Versailles, autour de l'édition. Et il y a eu une journée également en septembre organisée au CNSM de Paris, autour des usages de l'intelligence artificielle. Donc ce secteur, il a pour objectif, comme le reste des secteurs de l'ICAR Lab, d'arriver à créer et à développer des interactions entre la recherche et les ICC. Donc ça veut dire qu'on a autant des lieux de formation pour les musiciens, des lieux de création, qui doivent dialoguer aussi avec des partenaires plus industriels comme des éditeurs, mais aussi avec le monde de la recherche. Et on a vu que globalement, ce n'était pas encore gagné et que les vocables étaient quand même très différents, d'où l'importance de faire beaucoup de journées d'accélération pour arriver un petit peu brasser tout ce beau monde et arriver à faire se questionner autour d'axes communs. Également, étant donné que c'est un projet qui est à la fois en lien avec les SHS et les sciences informatiques, on a un rapport à la technologie qui est très prégnant et qui souvent va être un petit peu le filigrane de nos journées. Et pour 2026, il y a plusieurs projets en cours, avec notamment tout bientôt, c'est en avril à Lyon, si je ne dis pas de bêtises, une journée autour de la facture instrumentale en partenariat avec le CFSI.
Alors, c'est la chambre syndicale de la facture instrumentale. Voilà.
Merci beaucoup. Une journée qui sera dédiée à l'Optical Music Recognition, qui est le pendant musical de l'OCR, l'Optical Character Recognition, qui est un processus d'identification et de retranscription de manuscrits ou d'une manière plus générale de documents par des procédés de scan qui s'appuient également sur l'intelligence artificielle. Et également en cours de montage, une journée autour des questions de genre et de gestion dans la musique, gestion donc institutionnelle, et une journée autour de l'économie de l'innovation. Donc voilà, le secteur musique, c'est un secteur qui est quand même déjà assez installé, avec un groupe de réflexion actif et des projets passés comme des projets à venir. Le secteur données et métadonnées, au sein duquel Baptiste et moi sommes aussi inscrits, c'est un secteur tout récent qui a émergé en octobre 2025 par la nécessité d'un besoin d'identification d'acteurs pour les questions de données et métadonnées qui vont être inhérentes à des projets qui vont forcément être en lien avec la technologie, notamment dans le cadre des appels à projets de l'ICAR, les petits projets où les chercheurs et les industries peuvent être amenés à produire des données. L'objectif de ce secteur, c'est de pouvoir donner des réponses à comment bien conserver les données et d'arriver à les glisser dans une manière qui fasse sens autant pour les partenaires industriels que pour les partenaires universitaires. Donc, des axes premiers autour des bonnes pratiques, donc de la diffusion des bonnes pratiques et du fait de fournir des ressources avec tout d'abord qu'est-ce que c'est la donnée et qu'est-ce que sont les métadonnées. Parce qu'en fait, on voit très bien que du côté des partenaires universitaires, souvent la donnée, on appelle ça des corpus, des documents. Donc voilà, il y a quand même une question de sensibilisation par rapport au vocabulaire et de faire comprendre que finalement la donnée elle est présente déjà partout au sein des projets. Les standards et les outils, et notamment des choses qui vont être liées à ce qui se fait au niveau national. La qualité des données et des métadonnées, savoir si on est plutôt sur une approche quantitative ou sur une approche qualitative, voire les deux. Mais aussi la question de la conservation, voire de l'archive. Donc nos missions dans le cadre du secteur, ça va être premièrement rencontrer les acteurs des secteurs, donc c'est plutôt facile dans le secteur musique parce qu'on partage beaucoup de personnes en commun. Il y aura un questionnaire aussi qui va avoir vocation à circuler pour arriver un petit peu à mieux comprendre les pratiques. Des journées d'accélération et de travail transversal. Donc c'est aujourd'hui la première journée d'accélération du secteur données et métadonnées et on est très reconnaissant à Mathieu et à Florence de nous avoir associés à celle-ci. Donc ce sera beaucoup de journées sur lesquelles on va venir se greffer pour arriver justement à apporter un soutien, un support par rapport à la question des métadonnées. Et travailler sur des cas concrets et produire des livrables afin d'avoir des ressources sur lesquelles on pourra mutuellement se concerter.
Bon. Ouais, alors, je reprends et je reprends rapidement. Donc voilà, pour nous, le ICAR, vraiment, l'objectif, c'est de créer le dialogue entre recherche et professionnel. On a une plateforme aussi de mise en relation, que je vais présenter juste après. Et voilà, c'est le petit acronyme comique, on appelle ça la SAPIC, voilà, science avec et pour les industries culturelles et créatives. Ce qui est important vraiment, c'est que le programme ICAR, il est vraiment pensé comme avec et pour les industries culturelles et créatives, et non pas sur les industries culturelles et créatives. Voilà. C'est cette idée de faire de la recherche en commun. Donc, les actions, c'est donc des journées d'accélération comme celle-ci, voilà, que les gens se rencontrent, voilà, travaillent ensemble, fassent des projets après, voilà, discutent autour d'un café. Des appels à petits projets, alors, ça, c'est des projets qui sont financés autour de 20 000 euros. Le seul vrai enjeu pour nous, c'est que ce soit en adéquation avec la stratégie d'accélération et qu'il y ait un partenaire industriel. Voilà. Ça, c'est le plus important. Il faut que ce soit recherche et industrie qui travaillent ensemble sur ce projet-là. On fait aussi de l'accompagnement doctoral. Donc des gens qui ont déjà commencé leur thèse et qui ont besoin de soutien financier, on le fait année 1, 2, 3, voire même 4. On finance aussi des thèses via des contrats doctoraux. Et enfin, donc il y a le fameux appel à manifestation d'intérêt pour un plus gros projet qui sera contractualisé par l'ANR. Et là, le processus est tout juste lancé. Donc là, c'est Ariane. Donc, c'est une plateforme de mise en relation. Là, vous indiquez nom, prénom, dans quelle structure vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Et puis, vous êtes sur la plateforme et vous pouvez chercher, je ne sais pas, chercher un informaticien qui est spécialisé de je ne sais pas quel sujet à Amiens. Et là, bam, hop là, Florence Levé, vous l'avez. Vous cherchez peut-être une entreprise qui travaille sur l'animation en Corse, hop, bam, vous en avez une, j'espère. Voilà, c'est cette idée-là. C'est un outil qu'il faut vraiment qu'on continue à développer pour qu'il soit le plus clair possible et le plus utilisé possible. Et voilà, donc merci beaucoup. Et puis, je vais laisser la parole à Florence et à Mathieu pour présenter les quatre demi-journées. Voilà, en gros, les deux jours. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Voilà, on voulait juste dire quelques mots sur l'objectif de ces journées. Donc, on a choisi avec Mathieu de vous proposer une journée d'accélération sciences ouvertes, données ouvertes et musique, parce que c'est une... c'est vraiment très important d'ouvrir la science pour plein de raisons qui sont écrites là, mais il y en a plein d'autres. Diffuser la connaissance, l'art, favoriser l'émergence de nouvelles connaissances, faire de la meilleure science. Il y a un cadre légal un peu posé, on va en parler un petit peu après. On a regroupé dans ces journées de nombreuses actrices et de nombreux acteurs des domaines musique, et on a tous des problématiques, des enjeux différents dans l'ouverture de la science et dans l'ouverture des données, et on espère pouvoir les explorer dans ces quatre demi-journées. Nous avons la chance d'avoir un cadre légal pour tout ce qui est données ouvertes au niveau national, donc avec le deuxième plan national pour la science ouverte. Dans ce plan en particulier, vous avez l'axe 2 qui concerne la structure, le partage et l'ouverture des données de recherche. Donc en particulier sur trois domaines. Donc dans les mises en œuvre à faire dans ce plan, il y a l'obligation de diffuser des données de recherche financées sur fonds publics. Vous avez noté, si vous avez un projet ANR, que maintenant nous devons faire un plan de partage des données, par exemple. Créer Recherche Data Group, la plateforme nationale fédérée des données de la recherche, qui existe depuis quelques années maintenant, sur laquelle il est préconisé de mettre nos données de recherche. Et aussi promouvoir l'adoption d'une politique de données sur l'ensemble du cycle des données de la recherche, pour les rendre faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables, grâce donc au principe FAIR dont on parlera également lors de ces journées. Je vais laisser la parole à Mathieu qui va vous présenter également un peu les enjeux de ces journées.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais rester ici parce que j'aime bien manipuler. Mais, ouais. Merci. Alors merci encore. J'ai eu beaucoup de remerciements, mais je voulais vraiment remercier Icar et aussi donc il y a Sainte Belliot et Marion Brissac qui ont fait énormément pour ces journées. Et donc quand on a il y a quelques mois commencé à vouloir organiser ces journées, on s'est dit ben quelque part à quoi nous fait penser ces mots sciences ouvertes, données ouvertes, et qu'est-ce qui peut être ouvert, qu'est-ce qui peut ne pas être ouvert en musique. On peut penser déjà des données autour de partitions, que ce soit des partitions numériques, des éditions critiques, on peut penser à des données d'enregistrement, des données multimédia, des images, des enregistrements, des textes. On peut penser aussi à des logiciels qui sont autour de la musique, qui aident à faire de la musique ou qui aident à diffuser de la musique, des logiciels libres. On peut penser aussi aux métadonnées, à tout ce qui est catalogage, données qui sont faites soit sur des données historiques ou sur des données actuelles. Donc là, vous allez, pendant ces deux jours, explorer un petit peu, on va dire, tous ces objets. Et autour de ces objets, on a beaucoup de questions. Donc là, moi, je ne vais pas tout relire, mais peut-être le premier paragraphe, quel modèle est licence libre pour la musique? Quels sont les freins? Quels sont les freins? Donc on n'est pas utopiste. On aimerait être utopiste. On aimerait dire, oui, j'espère que nous serons utopistes. Mais nous sommes des utopistes réalistes, c'est-à-dire que nous allons essayer de discuter, de voir quels peuvent être les freins à la science ouverte, pourquoi on ne peut pas tout diffuser et comment on peut mieux diffuser les choses et comment on peut surtout construire un écosystème, j'aime bien ce mot écosystème culturel, scientifique, économique, c'est-à-dire de voir dans lequel chaque actrice, chaque acteur se sent représenté et qui permettent de faire progresser la culture commune tout en évidemment étant dans des cadres légaux qui sont acceptables. Le deuxième paragraphe parle en fait de deux modèles différents. D'un côté, des œuvres tombées dans le domaine public et de l'autre, des œuvres d'aujourd'hui. Alors, il y aura des présentations bien plus techniques que ce que je vais vous présenter plus tard, mais on sait que le domaine public, c'est difficile à définir. C'est souvent quelque chose qui n'est pas défini positivement. Il y a des lois qui gèrent en fait la propriété intellectuelle, qui ne sont pas les mêmes suivant les pays, qui ne sont pas les mêmes. Il y a des lois et puis il y a la jurisprudence. Nous aurons, je pense, plusieurs contributions un peu là-dessus qui nous aider à faire comprendre qu'est-ce qu'une œuvre dans le domaine public, et nombreux d'entre vous le savent déjà. Un exemple dont on aime bien parler, c'est par exemple Maurice Ravel, qui est décédé en 1937. Et donc, en France, en Europe, on est à des règles, on va dire, de 70 ans après sa mort, avec en France des prolongations de guerre. Le sujet des prolongations de guerre est un sujet qui n'est pas facile, qui est pour d'autres biens culturels, qui en fait inclut les 70 ans, mais il n'y a pas encore de jurisprudence sur la musique. On aura peut-être aussi des contributions un peu là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des œuvres comme le Boléro sont aujourd'hui dans le domaine public depuis quelques années, mais suivant certaines interprétations, pas L'Enfant et les Sortilèges, qui est par contre une œuvre qui a été faite, musique de Maurice Ravel, mais un livret de Colette qui est décidé en 1954, et avec les prolongations de guerre, on n'est pas encore dans le domaine public. Donc là-dessus, il y a des questions qui se posent, on va dire techniques, qu'on pourra aborder. On peut le voir aussi, donc le côté enregistrement, si on prend les premiers, tout le premier album des Beatles, 1962, donc là on est à plus de 50 ans après publication de cet enregistrement, et donc cet enregistrement est dans le domaine public, et les œuvres des Beatles arrivent progressivement dans le domaine public les prochaines années. Donc, plusieurs d'entre nous souvent se réjouissent quand des œuvres arrivent dans le domaine public. Là, j'ai mis quelque chose, c'est un événement qui a eu hier soir, enfin, avec le décalage horaire, c'était même ce matin. L'Internet Archive que vous connaissez, qui a une mission d'archivage, mais qui fait aussi, on va dire, du développement, presque du militantisme aussi, sur le domaine public, et qui, avec d'autres acteurs, par exemple, organise chaque année des fêtes quand certaines œuvres passent dans le domaine public. Nous aurons, donc, pour le 20e, les questions sont compliquées, dépendent des législations, tout ça, mais en tout cas, un message que nous connaissons bien, et plusieurs d'entre nous travaillent sur des corpus, on va dire, plus anciens que le 20e siècle, c'est qu'en gros, pour simplifier, dès que quelque chose a été écrit, publié au 19e siècle ou avant, évidemment, nous sommes dans le domaine public. Voilà, nous sommes dans le domaine public. Ce soir, nous aurons un concert qui sera entièrement quelque chose de domaine public, avec notamment des œuvres de Fanny Mendelssohn. Et donc, c'est-à-dire, c'est notre, quelque part, notre richesse partagée, de dire ces œuvres qui sont là, nous pouvons nous en saisir, nous pouvons les transformer, nous pouvons les modifier, nous pouvons faire des choses avec. Mais toutes ces questions de quelles sont les œuvres qui sont dans le domaine public, c'est finalement sur les œuvres un peu du passé, on peut se dire, quelles sont celles où elles ont été écrites auparavant et aujourd'hui on peut considérer qu'elles sont dans le domaine public. Mais il y a une question qui est très pertinente, c'est aujourd'hui, ce que nous faisons, notre travail créatif, notre travail intellectuel, notre travail artistique, quels sont les droits qui sont sur ces travaux-là? Si aujourd'hui nous tous qui sommes dans cette salle, nous créons ensemble une chanson, une œuvre, nous l'interprétons, nous l'enregistrons, que se passe-t-il? Si on ne fait rien du tout, elle sera en France, en Europe, dans le domaine public, 70 ans après la mort de la dernière, du dernier d'entre nous, donc j'espère dans bien plus qu'un siècle, donc c'est quand même dans très 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 longtemps. Par contre, si nous souhaitons quelque part favoriser une création de culture libre, diffuser ces choses-là, nous pouvons rendre libre dès aujourd'hui, dès ce soir, notre création d'aujourd'hui. Et je sais que beaucoup, beaucoup d'entre vous participent déjà à des projets de création de contenu libre, alors soit des nouvelles musiques, des nouveaux enregistrements, ou un nouvel enregistrement d'une pièce qui est déjà dans le domaine public, une nouvelle édition, une édition qui peut être critique d'une pièce libre, ou des codes de logiciels qui soient nouveaux, ou qui s'appuient sur déjà des codes libres dont la licence permet de transformer le code, ou des données. Donc, je pense qu'il faut toujours avoir ça en tête qu'il y a des œuvres, il y a des créations collectives qui sont déjà libres, qui sont dans le domaine public. Il y a d'autres que nous choisissons notre travail, nous choisissons de mettre notre travail sous licence libre. Et nous parlerons, je pense, dans ces deux jours, des différentes manières de le faire, des différentes licences qui ont des droits, des devoirs qui ne sont pas les mêmes, qui permettent en fait des choses différentes, mais en tout cas, qui, quand elles sont là, permettent une redistribution. Donc, pensez toujours que quand on parle de choses libres, à la fois des choses du passé, des choses d'aujourd'hui, on peut mettre ces choses d'aujourd'hui dans le domaine public, pas dans le domaine public, mais on peut mettre des licences libres. Et le troisième paragraphe, un petit peu, qui a amené un peu l'organisation de cette journée, c'est l'interopérabilité, l'accessibilité. Donc derrière, il y a toutes des questions très techniques, de format de données, mais aussi de méthodologie. Nous aurons des sessions où plusieurs personnes vont nous présenter quelles plateformes elles utilisent, quelles méthodes elles utilisent, et au final, comment elles utilisent ces données, ces méthodes du libre ouvertes pour leur recherche, pour leur pratique artistique, pour leur pédagogie, pour leur création. Voilà, donc je m'excuse d'avance parce que c'était évidemment très très court, là, c'est juste des petits mots, mais plus pour lancer des questions. Vous répondrez beaucoup mieux dans les deux jours à toutes ces questions. Nous ouvrirons aussi quelque part beaucoup de points de discussion.